On en est dans la prospérité. Et j'essaie de vous donner un regard sur la prospérité. En vous montrant que c'est une mentalité qui découle de la sagesse divine et de l'intelligence divine. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette doctrine qui a été abusée. On a ceux qui prêchent la pauvreté. Et on a ceux qui prêchent, il faut donner et vous allez recevoir au centuple, etc. Le petit truc qui d'un seul coup va tout transformer ta situation financière.
Mais
la Bible a un message qui n'est pas tout à fait celui-ci. Il y a 5 piliers sur lesquels notre prospérité doit reposer. D'abord, c'est la connaissance de la parole de Dieu.
Et
nous avons largement étudié ce pilier. Je vous ai montré que Dieu n'a pas une mentalité de pauvre. Que dans la pensée de Dieu, quand Dieu a créé l'homme, la pauvreté n'existait pas. C'était une conséquence du péché. Et en fait, après, on voit que Dieu commence à toucher des vies. Des gens qui le servent, des gens qui ont la foi. Et aussi, la Bible nous parle de relation avec l'argent. Nous avons une relation tous avec l'argent.
Et
il faut que nos mentalités soient transformées. Parce que souvent, le problème, c'est que nous avons des forteresses dans nos têtes. Et on a besoin d'avoir une certaine mentalité par rapport à l'argent. La mentalité de Dieu si on veut être béni par Dieu. Et il faut avoir une mentalité transformée dans la mesure de notre prospérité. Sinon, ça peut nous amener dans de mauvaises directions comme l'orgueil ou le rétrogradage. L'argent est un instrument. C'est comme ça que tu dois le voir. Un instrument qui d'abord doit financer le royaume de Dieu. C'est comme ça que tu dois le voir. Tu es appelé, nous sommes tous appelés à produire dans la vie. Celui qui est stérile financièrement, c'est qu'il a un problème. Comme celui qui est stérile relationnellement. Ou qui est stérile dans les fruits spirituels, les fruits de la prière. Nulle part la stérilité ne vient de Dieu. Dieu nous appelle à la productivité. Il y a un certain nombre de clés pour cette productivité. Donc nous avons vu que la parole de Dieu, Jésus n'a jamais été pauvre, ne s'est jamais considéré comme pauvre. Nous avons vu que Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Et nous savons que la malédiction de la loi comportait justement la pauvreté. Donc en aucun cas Dieu veut que ses enfants soient dans la pauvreté. Jésus a dit dans Luc 6:20, heureux vous les pauvres, donc pas nous les pauvres, je vous rappelle. Donc Jésus ne s'est jamais mis dans le sac des pauvres. Il a dit heureux vous les pauvres car le royaume de Dieu vous appartient. C'est-à-dire qu'il y a les clés dans le royaume pour sortir de la pauvreté. Et c'est ces clés-là qu'on doit utiliser. Nous sommes dans le royaume. Il y a des choses dont nous pouvons bénéficier si nous savons comment faire. Et la prospérité financière en fait partie. Alors, la dernière fois, nous avons vu le deuxième pilier qui est la semence. Nous avons étudié 2 Corinthiens chapitre 9. Et c'est le deuxième pilier qui est important pour la prospérité. Tu peux savoir que Dieu te veut prospère. Si tu n'agis pas avec les autres piliers, ça
ne
marchera pas. Le deuxième pilier, c'est la loi de semer et récolter. Et nous avons remarqué dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6, je vais juste le relire en français jusqu'au verset 12.
6 à 12. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème en abondance moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir ou la puissance, la capacité de vous combler, c'est-à-dire de vous donner au-delà de tout ce que vous pouvez même penser, de toutes sortes de grâces, c'est-à-dire de cadeaux, de choses gratuites, afin que possédant à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et l'augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Alors, nous avons vu 7 principes de la loi de la semence et de la récolte. Le premier principe, c'est que les finances que nous donnons à Dieu sont des semences. On a vu que dans chaque fruit, il y a une semence. C'est-à-dire que dans chaque fruit, il y a un potentiel de reproduction. Et ça peut produire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Ou ça peut ne rien produire du tout. Une bonne plante va porter de bons fruits. Et dans chaque fruit, il y a une semence. Si c'est un mauvais fruit, c'est-à-dire un fruit qui est immangeable, qu'on ne peut pas manger, eh bien, il y a une semence qui va reproduire ce fruit qui sera toujours immangeable. Quand il y a de bons fruits, dans ce fruit, il y a une semence. Cette semence, tu peux la manger, elle sera improductive. En parlant de tes finances. Et ça veut dire que ce que nous produisons, dans ce que chacune de nos vies produit, il y a donc des fruits, c'est ça, notre production, c'est ce que nous produisons financièrement. Et dans ce que nous produisons financièrement, il y a une semence. Cette semence a une puissance. Une puissance pour financer le royaume de Dieu et pour se multiplier dans ta vie, ou si tu la manges, il n'y a plus de puissance. Tu enlèves la puissance à cette semence. Ensuite, nous avons vu la qualité de la semence. J'en ai parlé un peu ici. Et c'est important que notre semence soit de qualité. Ça veut dire que la façon dont tu produis les choses doit être une façon digne du Seigneur. Je vous disais que des gens qui gagnent malhonnêtement de leur vie ne peuvent pas semer dans le terrain de Dieu. Ou des gens qui font des trafics qui sont indignes de Dieu. Qui vendent des produits qui seraient indignes de Dieu. Ensuite, le terrain. Nous avons vu la qualité du terrain. Il est important de semer ses finances dans un terrain qui est fertile, une vraie œuvre de Dieu. Parce que nous avons un territoire de bénédiction. Et c'est ça qui est très important à comprendre. Il y a parfois des gens qui sèment dans des œuvres mortes. Et cela ne produit rien parce qu'ils ont semé peut-être une bonne semence, mais dans une terre qui est infertile, c'est-à-dire non fertile. Ensuite, le cinquième principe, on a vu que la récolte est proportionnelle à la semence si elle est faite, si la semence est semée dans les règles du royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul dira, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et je vous ai montré qu'il faut commencer au niveau où on en est. Mais que chaque année, nous devons nous fixer des objectifs financiers. Ce qui va augmenter nos fruits. Et au travers de nos fruits, ça augmente notre semence.
Donc
l'année d'après, tu sèmes plus
hein,
et tu récolteras davantage. Et ainsi de suite, etc. etc. Et c'est comme ça que dans les années qui avancent,
hein,
ta prospérité va monter. Et c'est là aussi où beaucoup de gens ne comprennent pas.
Et
parfois, ils écoutent des gens leur dire « Ah, le Seigneur me dit qu'il faut tout de suite que des gens donnent 100 dollars. »
Et
qu'ils vont récolter 10 000 dollars.
Et
les gens sont sous des émotions.
Et ça ne
marche pas.
Et
faites attention à cela.
On
va voir aussi, on va parler, j'espère aujourd'hui, du comportement financier du serviteur de Dieu. Ensuite, il y a un temps, sixième principe, entre le moment où tu sèmes et le moment où tu récoltes. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ah, le Seigneur dit, oui, il faut donner la dîme. Ok, je donne la dîme.
Et
puis, ils prient. Et puis, leur situation financière devient de plus en plus difficile.
Et
ils disent, pasteur, j'ai essayé, ça ne marche pas.
Mais
il y a des gens qui sont comme ça, parce qu'ils s'imaginent que... Non, il y a un temps où on sème.
Et
il y a un temps où tu récolteras.
Mais
il y a toujours un moment entre les deux, un laps de temps entre les deux. Sortir de situations financières difficiles ne se passe pas du jour au lendemain.
Ça prend
un peu de temps. Mais il faut apprendre à semer,
à
marcher dans les cinq piliers que nous étudions.
Et
ça, c'est quelque chose qui est fondamental si vous voulez grandir au niveau des
finances.
Ensuite, la semence, c'est quelque chose qui doit être fait de manière régulière. Ça ne doit pas être fait dans les émotions. Alors, on va parler aujourd'hui de la dîme. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien à propos de la dîme.
Il
y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à propos de la dîme. Et j'aimerais remettre les choses au point. En fait, beaucoup de gens, quand on leur parle de la dîme, ils disent, ah oui, ça c'était pour l'Ancien Testament. Et en fait, ils ne réalisent pas que dans la dîme, il y a une loi spirituelle. Qu'il faut apprendre à pratiquer.
Mais
à la lumière de la grâce de Dieu. Et quand je dis à la lumière de la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est très important. On va découvrir qu'il y a des lois spirituelles qui ont traversé les alliances. Par exemple, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir qu'à partir du moment où Adam et Ève vont chuter,
et
eh bien, l'homme pourra s'approcher de Dieu sous une condition. Et c'est une condition qui a été donnée par Dieu. Non pas par l'homme. Parce que Dieu connaît toutes choses.
Et
à partir du moment où Adam et Ève vont chuter.
Adam
et Ève n'avaient plus accès à la présence de Dieu directement. Ils ne voyaient plus le Seigneur les visiter le soir.
Et
ils ne pouvaient plus parler avec le Seigneur face à face. Ça, c'était ce qui se passait dans le jardin d'Éden. Au moment même où ils ont péché, nous savons qu'ils sont morts spirituellement. Et à ce moment-là, la relation qu'ils avaient avec Dieu s'est coupée. C'est pour ça qu'Adam dira, j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'ai eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils se sentaient coupables et c'est normal.
Et
il s'était passé tellement de choses dans sa vie. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais à partir de ce moment-là, Dieu va les revêtir d'habits de peau.
Et
Caïn et Abel connaissaient ce principe où il fallait s'approcher de Dieu par un sacrifice de sang. C'est pour ça que Abel arrive avec un animal. Dieu agrée son sacrifice. Caïn dit non, moi je viens à ma façon. Et Dieu lui dit, c'est pas comme ça que tu dois faire. Si tu fais comme ça, ça ne marchera pas. Tu sais ce que tu dois faire. Fais la bonne chose. Et à ce moment-là, tu pourras t'approcher de moi. Puis après, on voit que chaque personne, par exemple, Noé sort de l'arche. Il invoque le Seigneur. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Il met un animal, il offre un animal en sacrifice. Abraham veut s'approcher de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il offre un sacrifice. Et puis, Dieu, dans la loi de Moïse, va dire à son peuple, voilà comment vous pouvez vous approcher de moi. Sacrifice, 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 sacrifice. Pourquoi? Parce que le sang doit couler pour s'approcher de Dieu. L'homme ne peut pas s'approcher par lui-même de Dieu. Mais il doit s'approcher au travers d'un sacrifice. Et puis nous arrivons à la nouvelle alliance. Aujourd'hui nous pouvons nous approcher de Dieu comment? Au travers du sacrifice perpétuel. On n'a pas besoin de venir avec nos animaux, là, on n'est pas avec nos animaux ici dans l'église. Mais quand on veut s'approcher de Dieu, on le fait sur une base. Le sang qui a été versé à la croix. Donc on voit que, par exemple, le sacrifice de sang a traversé toutes les alliances. C'est quelque chose que vous retrouvez partout à propos de toutes les alliances. Eh bien, nous allons voir que le principe de la dîme traverse les alliances. Beaucoup de gens disent la dîme, le dixième de nos revenus, c'était pour l'Ancien Testament. C'était la loi de Moïse. Eh bien, c'est faux. Parce que la première fois on va voir quelqu'un donner sa dîme, c'est dans Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Nous sommes environ 1950 ans avant Jésus. Nous sommes 450 ans environ avant la loi de Moïse. Dieu n'avait pas donné la loi de Moïse encore. Abraham est venu 450 ans avant la loi de Moïse. Et Abraham va aller avec d'autres chefs combattre des rois. Et il va revenir vainqueur. Dans Genèse 14, verset 17, il est dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Regardez juste ce petit morceau de phrase après. Abraham, et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens.
Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu umuherezi w'Imana isumba byose azana imitsima na vino ahezagira Aburamu ati uragahabwa umugisha n'Imana isumba byose nyene juru n'isi kandi Imana isumba byose iragahezagirwa yagushiza abanse mu maboko nuko Aburamu amuha igigira 10 muri byose.
Abraham donne la dîme de tout.
Aburamu amuha igigira 10 muri byose.
Comme ça.
Gucho nyene aradutse.
Est-ce qu'Abraham est l'inventeur de la dîme? Et puis Dieu va voir Abraham faire ça. Il va dire, oh, mais Abraham, c'est pas bête, tu me donnes une idée ici. Je pense que dans 450 ans, on va faire une loi et je vais mettre la dîme dedans.
Vous
pensez que c'est ça qui s'est passé?
Ou alors Abraham, d'un seul coup, il a une idée. Tiens, je vais donner la dîme. Pourquoi il n'a pas dit la moitié? Pourquoi il n'a pas dit le vingtième? Quelle était cette idée? C'est la seule fois où la Bible nous dit qu'Abraham va donner la dîme. Et on voit qu'il donne cette dîme pas à n'importe qui. Il va donner cette dîme à un serviteur de Dieu de l'époque. À cette époque-là, il n'y avait que deux onctions. Il
n'y
avait que deux ministères. Ici, c'est la première mention que l'on voit d'un sacrificateur. C'est étonnant d'ailleurs. Ce passage a même été répété dans Hébreux chapitre 7. Mais on voit vraiment que dans ce passage, il y a des choses spirituelles qui apparaissent. Mais vous savez, la Genèse nous surprend beaucoup parce que des fois, il y a des déclarations qui sont faites. Et ça nous demande d'avoir une certaine connaissance et je dirais un certain regard sur l'époque et comment les gens vivaient avec Dieu à l'époque. Ici, on voit qu'il y a un sacrificateur. On parlera aussi qu'Abraham est prophète quelque part. Et effectivement, dans la Genèse, nous voyons des prophètes. Noé était prophète, c'est clair. Si vous n'en êtes pas convaincu, il a quand même donné une prophétie très claire. Et Dieu l'a utilisé pour prévenir le monde, les gens qui vivaient avec lui. Pour leur dire, tout va être détruit, attention. Je suis en train de construire une arche. Ceux qui vont monter obéiront à ce que Dieu dit. Ils pourront sortir sains et saufs. Les autres vont mourir. Noé était prophète. Nous avons plusieurs exemples de prophètes avant les, comment dire, avant la loi de Moïse. Nous avons l'exemple de Melchisédek qui ne devait pas être un exemple unique. De quelqu'un qui servait le Seigneur et qui était sacrificateur. Et rappelez-vous que le rôle du sacrificateur, c'était d'être un intermédiaire entre l'homme et Dieu. Le sacrificateur, lui, il représentait le peuple envers Dieu. C'était son rôle. Donc Abraham, là, on voit d'un seul coup, ça tombe, comme on dit en français, comme un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire quelque chose comme ça qui tombe. On s'y attend pas et d'un seul coup, Abraham donne, il y a un sacrificateur qui apparaît et Abraham donne la dîme à ce sacrificateur. Donc d'un seul coup, première mention de la dîme. On est 450 ans avant la loi de Moïse. Est-ce qu'Abraham est l'inventeur de la dîme? Genèse 28. C'est la deuxième mention que vous allez avoir de la dîme dans la parole de Dieu. C'est l'histoire de Jacob. Jacob le trompeur, le rétrograde. Jacob, celui qui s'était arrangé pour usurper, pour voler la bénédiction à son frère. Jacob, c'était celui qui était très ouvert à la bénédiction, mais qui était complètement fermé à la sanctification. Il y a des gens comme ça, vous savez, ils savent recevoir de Dieu, mais alors leur vie, c'est une catastrophe.
Et
il y a un moment où ça s'arrête, ça doit s'arrêter. Et Jacob, lui, il avait été éduqué selon les principes divins. La connaissance de Dieu à l'époque n'était pas écrite, il n'y avait pas d'écrit. Le premier écrit qui est apparu, c'est la loi de Moïse. 1500 ans avant Jésus. Dieu a révélé à Moïse ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden jusqu'à lui, à son époque à Moïse. Et Moïse a écrit la Genèse par révélation, parce que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne et Dieu lui a donné tout ça. Par une révélation directe.
Et en fait, Jacob était rétrograde. Il avait été élevé dans une famille où on parlait de Dieu, du vrai Dieu vivant. Jacob avait fait un sale coup à son frère, il avait dû fuir. Mais il s'est retrouvé en face de lui-même. Et Dieu va se révéler à lui d'une façon spéciale. Et je compare souvent ce passage à un... à une expérience de conversion. Bien qu'il ne pouvait pas naître de nouveau ici, en tout cas, Dieu va se révéler à lui et il va s'engager avec Dieu. Il va s'engager à servir le Seigneur. Donc, il est en pleine fuite et il va faire un songe. Il va voir une échelle. Il va avoir une vision du trône de Dieu.
Et
il va voir des anges monter et descendre. Et il est dit au verset 16, Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit. Et moi, je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. La maison de Dieu en hébreu, c'est Bethel. C'est la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placé sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit, mais la ville a d'abord porté le nom de Lutz. Verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, il fait un vœu, il dit, si Dieu est avec moi, et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Ça, c'est vraiment une expérience de, entre guillemets, de conversion. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, si tu fais ça, si je m'en tire cette fois-ci, je te donne ma vie. Entre guillemets, c'est un peu ça. Même si on ne pouvait pas donner sa vie à Jésus à l'époque. Okay? Verset 22. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Regardez bien d'un seul coup, qu'est-ce qu'il dit? D'un seul coup, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. On peut lire verset 20 au verset 22.
Atimana ni yabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo ikamba ibyo kujya n'ibyo kwambara nkazogaruka kwa data nkira amahoro uhoraho azoba imana yanje niri buyanshinze kwinkingi rizoba inzu y'imana ati kandi kubyo uzohora umpa byose mana sinzobura kuguha kwigigira 10 asubiye kuzana ikigira 10 kandi
d'un seul coup il décide
mukanya gato afata ingingo
ça lui est tombé comme ça.
Tiens,
je vais te donner la dîme de tout, Seigneur. Non. Il a bien appris ça quelque part. Certainement de son père.
Qui
l'avait appris de qui? De son grand-père. Son père, c'était qui? Isaac. Et son grand-père, c'était qui?
Abraham.
Et Abraham n'a pas inventé la dîme. Dieu n'a pas pris ni l'idée d'Abraham, ni l'idée de Jacob pour donner la loi de Moïse en disant, voilà, tu me donneras la dîme de tout, etc. Non, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il est évident derrière tout ça
qu'il
y avait un principe divin.
Comme
le sacrifice de sang. On voit d'une façon entre guillemets naturelle. Noé prendre un animal et l'offrir à Dieu avant d'invoquer Dieu. Abraham fait la même chose. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu vont faire la même chose. L'origine venait d'où? De Dieu, bien sûr. Il est évident que ce soit l'alliance par le sang, que ce soit la dîme, Dieu l'a dit, l'a parlé. Maintenant, nous ne savons pas où et quand. Mais c'est évident que Dieu l'a parlé quelque part. Parce que tous ceux qui ont fait ça, d'un seul coup, ont plu à Dieu. Et ça a été repris où? Dans la loi de Moïse. Les sacrifices de sang vont être pleinement explicités dans la loi de Moïse. Pratiqué par les Juifs pendant 1500 ans. Et accompli par Jésus.
Et
là, on voit encore que le principe de la dîme, on va le retrouver partout. Mais il va s'appliquer d'une façon spéciale à nous qui sommes sous la grâce. Regardons d'abord ce que Dieu dit dans sa parole à propos de la dîme. On va lire plusieurs versets. On va lire Lévitique chapitre 27. Lévitique chapitre 27. Au verset 30 jusqu'au verset 32, il est dit « Toute dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit des fruits des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Donc il dit « Toute dîme des produits de la terre, ou des semences de la terre, ou des fruits des arbres appartiennent à l'Éternel. »
Verset
31 dit, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Pour toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, le dixième sera consacré à l'Éternel.
Vous
allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire de racheter sa dîme?
Je fais
juste une petite parenthèse quand vous lisez l'Ancien Testament. Les Israélites amenaient du grain, amenaient des animaux, comme dîme.
Ils amenaient
des fruits
de
leur production. Mais Dieu dira dans un autre passage, parfois jusqu'au lieu où tu dois apporter cela, c'est loin d'où tu habites.
Donc,
ce que tu peux faire, c'est transformer tous ces produits-là en argent.
C'est ce qu'il
dira dans un passage plus loin. Alors, regardons ensemble plusieurs autres passages dans Nombre 18.
Nombre 18.
Au verset
21.
Et il est dit, à partir du verset 20, « L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. »
Verset 20 et 21.
Alors, ici, on voit que la tribu de Lévi, c'était la tribu qui servait. Et Dieu, dans le partage du pays avec les 12 tribus, avait dit à la tribu de Lévi, toi, tu n'auras pas de territoire où il y aura ta tribu qui va se développer. C'est vous qui allez servir. C'est vous qui donc allez partout, vous allez vous répandre dans tout Israël. Et on trouvait des Lévites, des descendants de la tribu de Lévite, partout, dans tous les autres territoires d'Israël. Et c'est eux qui servaient. Et c'est à eux qu'on apportait la dîme. Alors regardez dans Deutéronome 12 maintenant. Deutéronome chapitre 12, la Bible va nous dire où apporter la dîme. Alors, on va regarder ensemble Deutéronome chapitre 12,
verset
5 et verset
6.
Il est dit, mais vous le chercherez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom et l'y faire demeurer, c'est là où tu iras. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, c'est-à-dire c'est là où vous viendrez m'adorer, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes faites avec le vœu, et vos offrandes volontaires, ainsi que les premiers-nés de votre gros et votre menu bétail.
Ariko ahantu Uhoraho Imana yanyu azotoranya mu miryango yanyu yose ngo hashire izina ryiwe aho hantu nyene azogerera azaba ariho muzohora mumubariza aba ariho muja gushengerera kandi azabe ariho mujana ibimaze ibyanyu byo koswa n'ibimaze ibyanyu bindi n'ibigira cumi byanyu mutanga n'amashikanwa yanyu mu mugereye nayo gushitsa amasezerano nayo mutanga muvyigombeye n'iziburiza zo mu masho yanyu no mu mikuku yanyu.
Alors, ici, la Bible dit qu'en fait, ce que le peuple apportait, il devait l'apporter au lieu de culte. Et là, Dieu dit qu'il y avait quatre catégories de choses qu'on apportait à Dieu. On apportait les dîmes, c'était le dixième des revenus. On apportait les prémices. Des récoltes, entre autres.
Et
il y avait ce qu'on appelait les lois sur les prémices. On verra ça dans les prochains cours. Et il y avait aussi des offrandes d'accomplissement d'un vœu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais quelle est la différence entre la dîme et les offrandes? La dîme fait partie du dixième, c'est-à-dire c'est le dixième de ce que nous produisons. Et les offrandes, c'est quelque chose qu'on donne au-dessus de notre dîme. Et dans les offrandes, il y avait deux groupes. Il y avait les offrandes qu'on faisait avec un vœu au Seigneur. C'est-à-dire que les gens priaient
et
ils offraient quelque chose de spécial à Dieu au-dessus de leur dîme. C'était quelque chose qu'ils avaient mis à part et qu'ils consacraient spécialement. Et en même temps, ils priaient pour que Dieu agisse de telle ou telle façon par rapport à certaines situations. Quelque chose qu'ils voulaient, qu'ils désiraient. Ou alors des engagements qu'ils avaient dit à Dieu. Il désirait donner une offrande spéciale pour quelque chose de spécial.
Mais
avec un vœu derrière tout ça. Un vœu de consécration, un vœu d'engagement.
Ou
quelque chose qu'ils avaient prié en disant, Seigneur, s'il y a ça qui se passe dans ma vie, alors je consacrerai par exemple 30% de cette récolte. Etc. Donc des vœux qu'ils avaient faits. Il y avait aussi les lois sur les vœux dans l'Ancien Testament. Ensuite, il y avait les offrandes volontaires. C'est-à-dire quelqu'un disait, voilà, moi j'ai donné ma dîme, mais j'ai envie de bénir la maison de Dieu. J'ai envie de bénir un serviteur de Dieu. J'ai envie de bénir une veuve, un orphelin, etc. Ça, c'était les offrandes volontaires qui étaient faites d'une certaine façon. Alors, quand on commence à parler de la dîme, il y a beaucoup de gens qui tout de suite se posent des questions. Moi j'entends beaucoup, il y a plein de gens qui me posent des questions sur ça. Souvent ce sont des gens qui ne sont pas de l'église ici parce qu'on essaye d'être très clair au niveau des finances, au niveau de l'église. Mais il y a des gens par exemple qui posent des questions sur Malachie 3. Où Dieu dit dans sa parole, apportez les dîmes à la maison du trésor. Alors, il y a un jour, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit, mais moi, il n'est pas de notre église, il nous dit, mais c'est où la maison du trésor? Et c'était sa question. Il disait, moi je ne veux pas donner ma dîme. Dans l'église où je suis, bon, pour différentes raisons, il racontait. Et il disait, moi je veux plutôt donner à des orphelins ou à des veuves, etc.
Et
j'étais obligé de lui enseigner certaines choses. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu que je rencontre qui se plaignent du manque de finances dans leurs églises.
Parce que
quand on commence à parler de la
dîme,
évidemment, il y a des serviteurs de Dieu qui disent, ah, il faut donner aux serviteurs de Dieu la dîme.
Il
donnait directement au sacrificateur.
Non,
la Bible est claire. La Bible dit d'apporter à la maison de Dieu.
Là,
là où tu adores Dieu, là où tu es nourri spirituellement. Maintenant, le serviteur de Dieu, aujourd'hui ce sont les pasteurs entre autres, mais aussi les différents ministères. Eh bien, comment dire, ce sont eux qui reçoivent tout cela. Et malheureusement, souvent, par un mauvais comportement financier du serviteur de Dieu, les gens ne donnent plus ou ne donnent pas,
ou
murmurent. Et je dois dire qu'on entend souvent des plaintes de beaucoup de chrétiens à propos des serviteurs de Dieu et leur comportement par rapport aux finances. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens chapitre
4
à propos des serviteurs de Dieu. Parce que personnellement, j'ai de plus en plus de questions. Il y a un pasteur qui m'a écrit, qui est sur une île, je crois que c'est en Guadeloupe ou en Martinique, je ne sais plus.
Et
il cherche des clés pour son église.
Il
est intéressé à savoir justement comment faire à propos des finances.
Parce
que vous savez, l'église locale doit fonctionner financièrement très bien. Aucune église locale, œuvre de Dieu, vraie œuvre de Dieu, ne doit souffrir de finances, d'un manque de finances. Si un pasteur a des difficultés financières avec son église, il doit se poser les questions. Il doit se poser des questions. Pourquoi ? Parce que où qu'on soit dans le monde, Dieu a donné le principe de la dîme. La dîme est un pourcentage. Alors, je vous rappelle une chose. Personnellement, le terme « payer la dîme » pour moi n'est pas scripturaire. Si tu dis que tu payes la dîme, ça veut dire que tu payes un impôt. Et ça n'a rien à voir avec la mentalité de Dieu. La loi le disait, mais nous ne sommes pas sous la loi. Nous sommes sous la grâce, avec une loi spirituelle qui a traversé les alliances.
Donc,
nous bénéficions de choses que ceux de l'Ancien Testament ne bénéficiaient pas. Meilleure alliance basée sur meilleure promesse. Et où qu'on soit dans le monde, la dîme représente un certain pourcentage,
10%.
Si vous êtes dans un pays où les salaires sont très élevés, je vais vous dire une chose, les loyers seront très élevés. Et l'endroit que vous allez acheter pour l'église, parce que ça représente le plus gros budget d'une église locale, vous coûtera beaucoup plus cher qu'un endroit où les salaires sont beaucoup plus bas et où les loyers d'ailleurs seront plus bas.
Donc,
où qu'on soit dans le monde, le principe de la dîme étant un pourcentage doit fonctionner parfaitement dans l'environnement où on est. Parce que justement, c'est un pourcentage, ce n'est pas un montant. C'est pour ça qu'aucune église locale ne devrait être pauvre dans le milieu dans lequel elle se trouve. Sinon, ça veut dire que soit le message n'est pas bon, ou soit que le serviteur de Dieu est en train de décourager ses brebis par un certain comportement. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4,
verset 1,
quelque chose qui est très important à propos des serviteurs de Dieu. Paul dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, verset 2, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle.
Umuntu natwiyumvira yuko turabasuku abashumba abakozi ba Kristo n'ababwiriza bamabanga y'Imana kandi ababwiriza babagomba canke bikwiriye ko baboneka arabizigirwa.
Regardez Tite chapitre 1 verset 7.
Tito igice ca mbere umurongo w'indwi.
Tite 1 verset 7.
Tito rimwe umurongo w'indwi.
Il est dit Tite 1, verset 7, c'est après Timothée.
Tito azinyuma ya Timoteo. Tito ambere gice umurongo w'indwi.
Il faut en effet que l'évêque, c'est le surveillant, c'est-à-dire c'est le pasteur. Il faut, on pourrait même, entre parenthèses, mais il faut en effet que l'évêque ou le pasteur, si vous préférez, celui qui supervise les brebis, celui qui est responsable des brebis, soit irréprochable comme intendant de Dieu.
Kumurongo w'indwi ngo kuko umuzezwa shengero canke umwungere canke umupastori akwiye kutaba kumugayo nk'umubwiriza w'Imana nyene.
Donc ici intendant administrateur ça vient d'un mot grec.
Iri jambo bavuga ngo umuzezwa shengero bivuye mu ijambo ry'ikigiriki
ke oikonomos.
Qui
a donné économe.
Iryo ryatanze ryari ndavuga ngo économe.
Économe donc trésorier.
Ah économe canke umuntu ajejwe ikigega
gestionnaire.
Change umuntu agera ibintu.
Et là, la Bible nous dit une chose.
C'est
que le serviteur de Dieu
doit
être un gestionnaire fidèle.
Akwiye kuba umubwiriza
w'umwizigirwa. Et qu'il soit irréprochable.
Kandi akaba utagira umugayo.
C'est pour ça que le serviteur de Dieu doit avoir un certain comportement.
Nico gituma umukozi w'Imana hari inyifato abakwiye kuba afise.
Vous savez, financièrement, si on veut qu'une église fonctionne bien, donc une œuvre de Dieu fonctionne bien. Et rappelez-vous d'une chose, quand on a une vision, on ne peut pas la réaliser sans finances. Et l'église, l'œuvre de Dieu en général, est basée sur des principes qui sont simples. Sur les principes où les brebis donnent au Seigneur. Nous donnons touche au Seigneur.
Twese tugatangira Imana.
Et plus la prospérité est importante de chacun d'entre nous,
uko rero ubutunzi bw'umwe wese buba ari bunini,
plus l'œuvre de Dieu
niko n'igikorwa cy'Imana
peut être prospère
gishobora gutera imbere
si chacun respecte la loi de la dîme.
Umwe wese iyo
la loi spirituelle, je précise. Et plus chacun pratique les principes financiers
divins,
plus chacun prospère. Plus chacun prospère, plus il donne au Seigneur, plus l'œuvre de Dieu prospère. Et plus l'œuvre de Dieu peut avoir un impact là où elle se trouve. C'est un principe qui est simple, qui est très puissant, et toutes les églises locales doivent réussir financièrement. Sinon, elles sont liées. Moi, je vois beaucoup d'églises liées par la pauvreté. Et j'entends des pasteurs du monde entier, pas seulement en Afrique, du monde entier, j'ai dit. Qui disent, ah, on aimerait bien, on voudrait bien, mais on n'a pas l'argent pour ça. Je l'entends partout. C'est vrai qu'on l'entend ici beaucoup, mais j'entends un certain nombre de gens en Europe, je les ai entendus au Canada, où les gens se limitent. Le serviteur de Dieu se limite. La dernière fois où j'étais au Canada, on m'a parlé de ça. J'étais dans une église où j'ai parlé des finances.
Une église
qui est assez grosse, elle avait 700-800 personnes. Et on a pas mal parlé avec le pasteur. Et il m'a dit, pasteur, tu ne peux pas savoir le problème que les serviteurs de Dieu ont ici. Au niveau des finances et des églises, ils ont du mal.
Et je crois, c'est que
je suis pleinement convaincu que le principe divin de la dîme fonctionne à merveille parce que c'est un principe divin. Mais c'est basé sur une relation de confiance. Il faut que le pasteur ait un certain comportement financier. Alors il y a 12 lois que tout serviteur de Dieu devrait respecter. Parce que sinon, si le serviteur de Dieu se comporte mal financièrement,
ce qui
va se passer, c'est que les brebis n'ont pas confiance. Donc les brebis ne donnent pas à l'œuvre de Dieu. Celui qui sème peu moissonnera peu.
Donc
les brebis ne prospèrent pas comme elles devraient prospérer. Dieu ne peut pas les bénir comme Dieu voudrait les bénir, et l'œuvre de Dieu en ressent un mauvais coup. Donc c'est mauvais pour les brebis, c'est mauvais pour l'œuvre de Dieu. Et le leader a une grande responsabilité dans ce domaine-là. Parce que souvent, on voit des gens qui ne donnent pas leur dîme parce qu'ils n'ont pas confiance dans le leader au niveau des finances. Parce que peut-être qu'ils voient un mauvais comportement. Quand je vois un mauvais comportement, quand je parle d'un mauvais comportement, c'est vrai qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas honnêtes, il faut le dire. Mais il y en a qui sont honnêtes, mais qui ne savent pas comment faire, qui gèrent mal. C'est-à-dire, par exemple, ils vont recevoir de l'argent à l'église,
et
ils vont pas gérer les priorités. Ils ne vont pas faire attention à certaines choses. Donc on va voir quelques comportements à avoir aujourd'hui. La première chose, c'est qu'il doit être honnête et irréprochable. Ça, c'est très important pour un serviteur de Dieu. Si on commence à blâmer un serviteur de Dieu pour un comportement qui n'est pas digne du Seigneur financièrement, il risque sérieusement d'avoir des problèmes dans son ministère. Et son ministère, rappelez-vous, nous sommes des intendants des mystères de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous fait confiance sur une œuvre. Un serviteur de Dieu, il reçoit une onction et Dieu lui dit, vas-y, fais mon œuvre. Et vous savez, Jésus a donné beaucoup de paraboles à propos de propriétaires qui donc nomment des intendants.
Il
leur dit, voilà, faites ça, je vous donne ça, faites ça avec ce que je vous donne. Le propriétaire part. Et un jour il revient. Et il demande des comptes à l'intendant ou aux intendants. Il y a beaucoup de paraboles dans la Bible comme ça. Dans les évangiles, il y en a beaucoup. Relisez les évangiles, vous allez en trouver beaucoup. Le patron, le propriétaire revient. Et il demande des comptes au gestionnaire. Et c'est vrai parmi tout patron sur cette terre. Si vous êtes patron et que vous avez donné la gestion de vos biens à quelqu'un, vous allez revoir cette personne un jour ou l'autre et dire, donne-moi des comptes. Dans
1
Timothée 3:3, il est dit la chose suivante.
Il
est parlé encore des évêques, c'est-à-dire des pasteurs. Il est dit verset 3 qu'il ne soit ni adonné au vin ni violent, mais conciliant, pacifique et désintéressé. Désintéressé, c'est ça. En fait, littéralement, c'est qu'il ne soit pas ami de l'argent, non ami de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Quand vous avez quelqu'un qui est à la tête d'une œuvre de Dieu et qui a ce problème, Il peut faire des miracles, des guérisons, il peut être un super orateur. Financièrement, l'œuvre n'arrivera pas à prospérer.
Ou
elle aura des pics comme ça et des descentes. Pourquoi ? Parce que les gens perdront confiance. Ils vont donner et ils vont voir que ça ne va pas. Ils vont voir qu'il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas bonnes. La deuxième chose, il doit être intègre. Proverbe 2:21. Si quelqu'un veut subsister dans l'œuvre de Dieu et qu'il dirige une œuvre de Dieu, il doit être intègre. Proverbe 2:21. Il est dit, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, y resteront.
Kuko abagororotsi bazokwibera mu gihugu kandi abatunganye bazokwamayo bazokwigumirayo.
Alors ça, c'est quelque chose qui est très important. Le serviteur de Dieu doit être intègre, c'est-à-dire qu'il doit dire et il doit faire ce qu'il dit dans le domaine des finances. Si on dit on fait une offrande pour telle chose, il doit consacrer cet argent à ce pourquoi l'argent a été donné. Il doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. S'il commence à parler des choses à propos des finances et qu'il n'accomplit rien, ou qu'il raconte n'importe quoi, ou qu'il essaye de stimuler les gens en disant tout et n'importe quoi avec des grands chiffres, ou des grandes prières qui dépassent complètement sa foi. Oh, les gens vont être mués dans leurs émotions au début. Mais après, les gens n'auront plus confiance en lui. Il faut qu'ils disent exactement la vérité. S'il ne le fait pas, il perdra la confiance. Et ça, c'est super important pour un serviteur de Dieu. Et beaucoup se plaignent parce qu'en fait, ils n'ont pas mis de confiance dans leur brebis. Par des choses comme cela. Parce que les gens commencent à dire, ah oui, on a l'habitude, il parle comme ça, et on sait de toute façon qu'il n'accomplira pas
ça.
Et les gens perdent confiance dans la parole de celui justement qui devrait être intègre dans la parole. Je fais cette parenthèse sur les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Parce que je vous rappelle que c'est une relation de confiance qui se crée normalement. J'ai vu que dans la plupart des œuvres de Dieu, le manque de confiance, le manque de relation dans ce domaine-là entre le serviteur de Dieu et les brebis, et le peuple de Dieu, crée des appréhensions et ouvre des portes au diable pour que justement les œuvres de Dieu soient limitées financièrement, donc que le message de l'évangile ne puisse pas pénétrer là où il devrait
pénétrer.
Voilà, on va s'en arrêter là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse.
Imana ibahezagire.